Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les miracles, quand on voit la vie de Jésus et devant les nombreuses détresses auxquelles tout un chacun est confronté, on se prend à rêver que Dieu fasse plus de miracles. Mais au fait, y a-t-il encore des miracles? Y a-t-il de véritables miracles? Quels sont-ils? Quels sont les critères de discernement de l'Église? Les miracles sont-ils la preuve de l'existence de Dieu? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin. Cette émission Vivante Église ce matin, donc sur un sujet, j'allais dire brûlant, en tout cas un sujet qui va intéresser. Peut-on croire au miracle? Pour essayer de répondre à ces questions, j'accueille autour du plateau le père Philippe-Marie Margelidon. Vous êtes dominicain, professeur de théologie dogmatique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et docteur Alessandro De Francisi, qui est président du bureau des constatations médicales de Lourdes et qui est en direct depuis Lourdes. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, pour lancer cette émission, je voulais tout simplement vous citer un sondage. Alors, les miracles passionnent. C'est vrai qu'il suffit de se promener sur Internet pour trouver une multitude de publications, de sites Internet, de vidéos, etc. Par contre, il n'y a pas énormément de sondages sérieux sur les Français et les miracles. Le dernier que j'ai trouvé est un sondage du Pèlerin qui date de 2006 qui dit que 35% des Français croient aux miracles, ce qui est quand même beaucoup. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale des catholiques pratiquants, donc il n'y a pas qu'eux qui croient au miracle, et ils disent la chose suivante, c'est un phénomène que l'on ne sait expliquer pour 31%, un événement heureux auquel on ne s'attendait pas pour 27%, et 12% une expression, une simple façon de parler. Est-ce que, ça sera ma première question, je vais y arriver, père Philippe-Marie Margelidon, ce sondage vous surprend, 35% des Français qui croient au miracle, c'est presque un rebours du rationalisme et de l'athéisme ambiant, non?
Oui, un peu, oui, en effet, je ne pensais pas que c'était aussi haut. Bon, il faudrait vérifier, il faudrait faire d'autres sondages pour vérifier ce sondage.
Il faut toujours se méfier des sondages.
Oui. Mais enfin bon, ça l'a dit, ça recoupe ce que je vois ou ce que j'entends autour de moi quand je m'adresse à des gens qui ne sont pas justement catholiques. Il arrive une fois sur trois que la question du miracle vienne sur le tapis. Est-ce qu'on peut dire que votre Dieu agisse dans ce monde? Je traduis un peu simplement. Et donc, il fait des choses extraordinaires. Donc, le miracle est lié à l'extraordinaire, pour le bien des hommes, leur soulagement. Donc, ils pensent souvent au miracle de type physique et le miracle, disons, de guérison. C'est souvent celui-là qui est dans la tête des gens. Donc, ça m'étonne qu'à moitié.
Docteur Alessandro Francisi, comment vous réagiriez pour commencer cette émission à ce sondage et à ce chiffre que je viens de citer?
Non, j'ignore complètement. Et je n'ai pas de moyen de comparer le sondage que vous dites, qui d'ailleurs est vieux d'au moins une dizaine d'années. Mais je pense en tout cas que les gens, en principe, d'une part peut-être ne sont pas pratiquants, mais d'autre part ils sont sans doute ouverts, et ça fait partie de notre humanité, d'être ouverts au mystère, au merveilleux, à l'incroyable, à quelque chose qui arrive et qui change de manière brutale et souvent, heureusement, joyeuse, le déroulement de la vie.
Mais est-ce à dire qu'à Lourdes, vous constatez qu'il y a un certain nombre de personnes qui viendraient avec cet espoir, ou est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit de journaliste?
Ah non, je suis convaincu, mais ce n'est pas seulement à Lourdes. Je pense que les gens ont toujours un espoir de guérison. C'est la mentalité, si vous voulez, mortifère de ces années récentes à propos de l'euthanasie et tout ça, qui montre une humanité, heureusement, plutôt minoritaire, de gens qui cherchent la mort. Mais en principe, tous les gens malades que j'ai connus, je suis un médecin, j'ai exercé la médecine, j'étais pédiatre en Italie depuis plus de 30 ans, et aujourd'hui à Lourdes depuis 9 ans, comme un drôle de médecin, parce que je m'occupe des guéris et non des malades, mais en tout cas médecin, donc ça fait 40 ans, et jamais, j'ai vu un patient, parent de patient, fils de patient, frère de patient, ami de patient, qui m'a dit « Docteur, comment faire pour aller un peu pire ?» Docteur, il y a-t-il une bonne possibilité d'empéjorer la situation? Mais en principe, les gens viennent chez les soignants, et en principe dans la vie, en cherchant la guérison,
mais
en cherchant d'améliorer.
Ils ne demandent pas toujours des miracles, c'est peut-être particulier quand même à des lieux comme Lourdes, non?
Là, d'abord parce que je suis en compagnie maintenant d'un théologien qui d'ailleurs s'est occupé l'année dernière avec ce magnifique séminaire, colloque que le père Margelidon a organisé à Rocamadour sur le miracle à la foi. Donc c'est lui de parler du miracle. Moi, plus modestement, je m'occupe de guérison. Si après une guérison, c'est un miracle ou non, je ne sais pas. Mais sans doute, la médecine, a été déléguée par les pouvoirs, donc la République, les monarchies, les dictatures, c'est la médecine et les médecins qui ont été délégués à reconnaître si quelqu'un est malade, de le soigner et de reconnaître s'il est guéri. C'est ça plutôt mon domaine.
Voilà, précision faite. Alors, je le reciterai à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'il y a eu un colloque à Rocamadour en 2016. Ça faisait à peu près une trentaine d'années qu'il n'y avait pas eu de colloque sur le thème du miracle. Et donc, il y a des actes du colloque qui ont été publiés aux éditions Arthège, mais j'en reparlerai un petit peu plus loin. Comment ne pas, après cette rapide introduction, on va dire d'actualité, d'abord ne vous poser cette question simple qui peut donner du sens au reste de l'émission. Dieu fait-il encore des miracles? Et alors, si oui, puisque le docteur Francesi vous renvoie à la balle, qu'est-ce que vous diriez? Et puis après, on lui donnera la parole côté guérison, si j'ai bien compris. Père oui. Philippe Margelidon.
Alors,
on va parler des miracles physiques. Hein. Après, il s'agira de peut-être de détailler au fur et à mesure.
Voilà, donc d'abord, il faut préciser ce qu'on entend par miracle. Il faut donner une définition, si vous voulez, quand même adéquate du miracle pour ne pas prendre n'importe quoi pour du miracle. Mais je dirais, pour répondre très simplement à votre question, Dieu fait-il encore des miracles? Oui, bien sûr, il fait des miracles encore aujourd'hui. Des miracles dont certains sont reconnus par l'Église et d'autres ne le sont pas encore, ou même, probablement, on en a des cas qui ne seront jamais reconnus parce qu'ils ne correspondent pas aux critères qui sont assez rudes, assez précis de la critériologie dans l'Église aujourd'hui. Non, mais Dieu fait des miracles. Moi, j'en ai vu des gens, des guérisons physiques absolument soudaines, inattendues, pour lesquelles les médecins disaient que vraiment, on ne voit pas comment c'était possible ou comment c'est possible. Ils ne disent pas « eux miracles », ils disent « inexpliqués ». C'est le théologien ou le croyant qui lui dit « mais c'est pas simplement quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire, de merveilleux pour moi, c'est un miracle ». Et l'Église ensuite ajoutera « en effet ». Selon nos critères, les critères de l'Église, c'est un miracle. Donc Dieu fait toujours des miracles.
Alors, docteur Alexandre Franchisi, sur cette même question, mais vous répondez donc, on va dire, côté guérison. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être la dernière guérison inexpliquée qui a eu lieu à Lourdes et nous donner ce témoignage?
Alors, chez nous, une histoire de guérison supposée, présentée et déclarée, c'est ça le mot qu'on utilise à Lourdes depuis 1883, déclaration de guérison. Une guérison supposée est allée étudier et suivie dans le temps. Je dirais aujourd'hui, à cause de l'épidémiologie courante, les grandes maladies neurodégénératives d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui, je dirais jamais moins d'une bonne dizaine d'années avant d'arriver à un premier jugement. Et là, la dernière a été constatée évidemment très peu, c'est-à-dire au long de la saison 2017. Et l'avant-dernière, c'était l'année passée, en 2016. C'est-à-dire, il nous arrive de constater, au bout d'un certain nombre d'années, que quelqu'un ou quelqu'une était vraiment malade d'une maladie connue, décrite, au pronostic défavorable, que quelqu'un soit guéri, à manière pour nous, comme le père Margelidon déjà annoncé, à manière soudaine, c'est-à-dire imprévue, à manière instantanée, à manière complète et durable dans le temps. Et pour cette guérison, nous, en investiguant la littérature scientifique existante et les expériences des autres centres cliniques, on n'a pas d'explication connue. J'y ajoute, parce que ça c'est très très intéressant, je trouve, à savoir, et là c'est aussi la raison peut-être française du bureau de constatation, parce que cette instance médicale de Lourdes est unique dans son genre, dans tout le monde, toutes religions confondues. C'est-à-dire un peu le cartésianisme français, très à la mode, surtout dans le 19e, il nous a amené à distinguer le plan du religieux, donc de la foi et du culte, du point de la médecine et des sciences.
Alors attendez, juste, donc, excusez-moi, je vous arrête juste un instant avant que vous nous détailliez justement peut-être ce protocole qui est si particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire? Parce que vous nous avez dit que de fait c'était arrivé récemment à Lourdes de reconnaître deux guérisons inexpliquées, mais qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle avait?
Alors, franchement, je suis en difficulté pour la simple raison que je suis un drôle de médecin, mais je reste un médecin lié en quelque manière au secret professionnel. Donc, vous voyez, il s'agit de guérison, pas de miracle. Le miracle est public.
La dernière qui a été rendue publique dans ces cas-là, c'est...
Voilà. Alors, c'est une guérison reconnue miraculeuse par l'évêque de la personne guérie. Ça devient un événement public qui partage évidemment toute la communauté croyante, le monde entier. Donc, la dernière guérison inexpliquée du point de vue scientifique et reconnu miracle par son évêque, c'est en 2013. C'est Madame Daniela Castelli, une femme qui habitait le diocèse de Pavie, jusqu'à côté de Milan, qui souffrait depuis plus de 10 ans à la fin des années 70 à la fin des années 80, des crises d'hypertension artérielle très fortes. Et cette maladie a été encadrée dans le cadre d'un phéochromocytome, une infection tumorale bénigne qui malheureusement amène à des problèmes géants parce que la haute tension artérielle au-delà de 30 l'amène déjà deux fois au coma. Et le seul traitement connu, c'est la chirurgie, c'est-à-dire l'enlever les parties du tissu où ces cellules malades et qui s'écernent catécholamines et qui font augmenter la tension artérielle sont contenues. Donc elle a été démontée par Monceau, la pauvre, et la seule chose qu'elle a aidé un peu, c'était le traitement d'un certain médicament qui le baissait la tension artérielle, mais qui ne soignait pas la maladie. Et finalement, son mari, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a un mari iranien qui était venu en Italie pour étudier la médecine d'origine chrétienne mais non catholique, donc un protestant, converti au catholicisme, mais pas tellement, si vous voulez, ouvert et sensible à Marie, comme peut arriver dans le monde protestant. À un certain moment, il comprend que le rêve de sa femme et de son épouse depuis des années de l'histoire de la maladie, c'était de se rendre à Lourdes. Donc c'est lui-même qui l'accompagne à Lourdes à 89. Et au passage aux piscines de Lourdes, Madame Castelli a vécu une expérience très très simple. Elle a tout simplement sorti de la piscine en disant qu'elle avait une sensation de bien-être. Une sensation de bien-être qu'elle ne connaissait plus depuis des années. Et effectivement, depuis ce jour-là, elle était guérie. Ça c'est donc 89. Elle a déclaré son histoire de guérison supposée à la fin de l'année même. Et donc elle a été suivie pendant presque 20 ans. Et en 2010, on a convoqué, moi j'étais déjà là, c'était peut-être la quatrième ou cinquième réunion collégiale sous son cas. On a constaté à l'unanimité, tous les médecins présents à Lourdes le jour de la convocation, que la guérison était effectivement une guérison inexpliquée en l'état de nos connaissances. Après, la guérison a été réétudiée par le comité médical international de Lourdes, de laquelle le médecin permanent à Lourdes est le secrétaire. Et donc l'année suivante, un rapporteur a présenté un rapport écrit, c'était un professeur d'endocrinologie. Et là aussi, à bulletin vote secret, les professeurs et académiciens présents ont voté pour dire qu'effectivement, c'est une guérison inexpliquée en l'état de nos connaissances.
Alors vous...
C'est à ce moment-là que l'évêque de Tarbes et Lourdes a notifié son frère évêque de la personne guérie de ceux qu'on avait suivi à Lourdes pendant plus de 20 ans. Et à notre totale surprise, parce qu'après c'est dans la totale autonomie de l'évêque de la personne guérie, au mois de juin 2013, Monseigneur l'évêque de Pavie a reconnu par mandement, par décret en tout cas, la guérison de Madame Castelli, survenue à Lourdes en 1989, être miraculeuse. C'est-à-dire il a réutilisé dans son décret le mot signe, c'est-à-dire il a dit c'est un prodige, ce prodige a la valeur de guillemets signe, c'est-à-dire les signes comme ceux que Jésus a opérés dans les évangiles.
Alors, docteur Alessandro Francesi, merci de ces explications. Est-ce que vous pouvez peut-être... moi, j'ai entendu dire qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui se tournaient vers les sanctuaires de Lourdes, le sanctuaire de Lourdes, ou vers le bureau des constatations médicales, disant qu'ils avaient été guéris, etc. Et donc, en fait, ça serait deux questions en une. La première, c'est, je sais pas, il y a combien de personnes depuis les apparitions de Lourdes qui ont frappé à votre porte pour dire j'ai été guéri, et il y en a peu en fait de guérison après reconnue, et pourquoi en fait cette prudence?
En réalité, il s'agit de trois choses différentes. D'abord, je vous donne l'expérience 2016, c'est-à-dire l'année passée. Depuis le 1er janvier au 31 décembre 2016, je me suis entretenu avec presque une centaine de personnes soi-disant guéries qui venaient déclarer une histoire de guérison. Je suis, oui, un drôle de médecin. Parfois, je dis en rigolant, peut-être un peu inutile du fait que je m'occupe des guéris. Mais je suis médecin et pleinement tel. Et donc, j'écoute, j'examine, j'observe. Et je les ai enregistrés l'année dernière, 2016, 34 que j'ai retenu comme des guérisons potentiellement, probablement, effectivement, des guérisons inexpliquées. Là, je demande aux gens de produire la documentation médicale. Et là, on a un premier grand problème, c'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui ont tendance peut-être à partager avec le médecin au sanctuaire une histoire de guérison vraisemblable, possible, plausible, mais en même temps, puis aucune envie de perdre du temps par la recherche de la documentation médicale et de suivre la démarche ennuyante, longue, peut-être un peu longue effectivement, pour arriver à bâtir un vrai dossier médical. Donc, d'abord, ça sont les chiffres de l'année dernière, 34. Et depuis le début de mon mandat ici, donc de la saison 2009, je peux dire que tous les ans, régulièrement, j'enregistre entre 30 et 40 déclarations de guérison supposées. Combien de gens collaborent? Très peu. Je dirais que chaque année, une, deux personnes commencent effectivement après à produire de la documentation médicale. Et je peux vous dire, sans trahir le secret professionnel, qu'effectivement, à ce moment, disons, à aujourd'hui, on cultive, on suit une vingtaine de dossiers très bons, très forts, très bien documentés et tout ça. Et donc, on suit dans le temps. Deuxième question que vous m'avez demandé, c'est combien de fois le bureau, dans sa collégialité, est évidemment bien différent, parce que vous imaginez, le bureau a été fondé en 1883. La reconnaissance de l'évêque des apparitions de Lourdes avec son mandement fut à l'époque, Mgr Laurence, en 1862. Donc 20 ans après le début du sanctuaire de Lourdes, on a un bureau de constatation. Eh bien, depuis alors, collégialement, les médecins ont défini, ont cru, ont jugé une guérison nette, une guérison inexplicable, on disait dans le passé. Aujourd'hui, on préfère dire inexpliquée en l'état de nos connaissances, un peu plus que 7000 fois. Donc là, effectivement, on a dans nos archives documenté bien plus que 7000 histoires des guérisons, disons, inexpliquées. Et finalement, vous me demandez, si j'ai bien compris...
Ma deuxième question, c'était pourquoi cette prudence de l'Église? Parce qu'au final, il n'y en a pas 7000 qui ont été reconnus, non?
Oui, mais vous me demandez la prudence de l'Église, il faut la demander aux pasteurs, des personnes...
Mais qui vous lui renvoyez la balle et je vais donc le faire
en votre nom. Non, je ne renvoie pas la balle. Mais c'est logique. Au médecin de dire que quelqu'un est guéri. Si ça, après, c'est un signe, comme les signes que Jésus a opérés à l'époque des évangiles, disons, ça, évidemment, c'est qu'il y a la communauté croyante.
Mais est-ce à dire qu'en fait, il y a 7000 fois où, à Lourdes, les médecins ont dit, là, on n'a pas d'explication, il y a potentiellement une guérison inexpliquée.
Oui.
Et après, vous avez envoyé la balle, justement, 60... à l'Église, et l'Église a dit, comment dire, l'a reconnue.
L'évêque du Temple des Apparitions, Mgr Bertrand Sévé-Laurence, évêque de Tarbes, le jour de son mandement, le jour qu'il a signé son décret en reconnaissant les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette, il a reconnu 7 guérisons être miraculeuses. Donc le sanctuaire est né le 18 janvier 1862 avec 7 guérisons reconnues miraculeuses. Et après lui, 62 autres évêques ont reconnu des guérisons être miraculeuses. Le plus grand parti sont évidemment français, 55. Et les 55, la plus grande partie, ont été reconnus par les évêques autour des célébrations du cinquantenaire de Lourdes, c'est-à-dire autour du 1908.
Alors,
et voilà.
On va donner la parole au père Philippe Marjolidon avant de faire une pause. Pourquoi cette prudence de l'Église, donc 7000 et 70, enfin, à gros traits?
Alors d'abord, bon, il y a plusieurs explications possibles. Il y a les critères de reconnaissance, critères théologiques, de reconnaissance se sont déplacés, se sont modifiés. Moi, je crois, enfin, de ce que je connais, hein, j'ai un peu étudié la question, sont devenus plus rigoureux, et plus on avance dans le temps, plus on est rigoureux. Donc, ce qu'on considérait comme miracle il y a 3 siècles ne le serait probablement pas aujourd'hui. Je parle du point de vue de l'Église elle-même, hein. Je parle pas du point de vue même médical. Alors, c'est lié à quoi, cette rigidité? On peut presque, cette prudence extrême de l'Église, elle est liée au contexte culturel dans lequel nous vivons depuis 3 siècles. Donc, ça vous explique qu'en période, disons, rationaliste et post-rationaliste, on est plus exigeant sur les critères de l'inexpliqué, retenu par l'Église, non pas par les médecins, et ensuite pour la reconnaissance des miracles. Les procédures sont plus longues, le docteur l'a dit tout à l'heure, et donc, étant plus longues, y a aussi un aspect bureaucratique, hein, dans cette affaire, c'est qu'on met du temps, il faut des gens, on fait appel à beaucoup plus d'intervenants entre l'inexpliqué conclu par les médecins et l'évêque. Il y a parfois des médiations, on fait appel à une équipe d'experts, de théologiens. Moi, j'ai fait partie d'équipes, j'en fais encore, et on n'est pas toujours d'accord. Donc, ça vient essentiellement du contexte, et en fonction du contexte, des critères qui se sont, à mon avis, je ne dis pas durcis, mais qui sont devenus plus nombreux. Donc, ça vous explique aussi ça.
Voilà, on va faire une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après, peut-être pour parler un petit peu plus du sens de ces miracles que Dieu ferait encore aujourd'hui.
Condamné,
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc peut-on croire au miracle avec, si vous nous prenez en cours de route autour du plateau, le docteur Alessandro De Francisi, qui est président du bureau des constatations médicales de Lourdes, en direct depuis Lourdes, et le père Philippe-Marie Margelidon, dominicain, professeur de théologie dogmatique à l'Institut catholique de Toulouse. Dans cette deuxième partie, je voulais qu'on creuse ensemble en fait ce que revêt ces miracles et puis peut-être au-delà de ces guérisons inexpliquées. Je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission parce que le docteur Francisi en parlait. Il y a eu donc un colloque en 2016 à Rocamadour dont les actes ont été publiés récemment, qui s'appelle « Le miracle et la foi » paru aux éditions Artege. Dans ces actes, en fait, Monseigneur Camiad, nouvel évêque de Cahors, fait une introduction disant tout son bonheur à accueillir un tel colloque qui n'avait pas eu lieu donc depuis une trentaine d'années. Et puis il a un mot comme ça. Il y a paradoxalement une démission de la pensée, aujourd'hui un découragement de la rationalité lié profondément à tous les découragements de notre époque. Voilà, comme une espèce de paradoxe en fait autour des miracles. Qu'est-ce que vous nous diriez, non pas, il ne s'agit pas de raconter ce colloque, mais peut-être de l'actualité pour vous ou de l'importance de reparler des miracles, père Philippe Margelidon?
Oui, alors simplement pour dire que l'initiative de ce colloque ne vient pas de moi. Elle vient du recteur de Rocamadour de l'époque, l'abbé Renan de Gouvello, qui est actuel archiprêtre de la cathédrale de Cahors, et qui m'avait dit, puisque je le connaissais, ça serait bien de faire quelque chose sur le miracle. Alors j'étais tout à fait d'accord. Je me suis rendu compte que il n'y avait pas eu de colloque théologique, disons, savant, là-dessus, depuis plus de 30 ans. Il y a eu des colloques à Lourdes, il y a des forums sur les choses comme ça, à Lourdes et ailleurs. L'Auss, il y en a eu il y a 10 ans. Mais de théologie, c'est-à-dire d'un point de vue de théologien, ça n'était pas arrivé depuis 30 ans. Alors c'est tout à fait étonnant, comme vous le dites très justement.
Parce et symptomatique que, peut-être alors,
et symptomatique,
en quoi ça le serait symptomatique?
Symptomatique parce que, alors il y a plusieurs éléments de réponse possibles. La première, c'est que la théologie s'est désintéressée du miracle à partir des années fin des années 50, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que les miracles du Christ étaient réétudiés selon de nouveaux critères par l'exégèse historico-critique. Donc, qu'est-ce qui était mis vraiment authentique dans les miracles de Jésus, parfois chez certains, ben, il n'en restait pas grand-chose. Ensuite, que dans le climat de l'après-guerre, disons rationaliste au sens large, bien les prêtres eux-mêmes, beaucoup de fidèles eux-mêmes, hein, pas simplement les prêtres, les miracles, il ne faudrait peut-être pas trop en rajouter, parce qu'on ne croit pas à coup de miracles. Les miracles, c'est une chose, certes, du moins s'il y en a, mais ça n'est pas constitutif de la foi chrétienne, ce qui est à moitié vrai, à moitié faux. De sorte que pendant très longtemps, on s'est mis à distance des miracles comme quelque chose d'un peu trop spectaculaire. La religion chrétienne n'est pas une religion du spectaculaire, ça n'est pas Hollywood. Hein, on ne fait pas des péplums avec des miracles. Ça n'est pas ça, la foi chrétienne. On ne croit pas à coup de miracles. Je pense que tout ça explique que pendant très longtemps, ça nous a intéressé. Et depuis quelques années, mais c'est très récent, depuis 5 ans, l'abbé Renan a donc une très bonne idée en me le demandant, on se réintéresse aux miracles. Pour eux-mêmes, pas simplement, pas du tout, même pour en faire du commerce. Hein, venez, soyez catholiques parce qu'il y a des miracles dans le monde, c'est pas ça du tout, mais parce que de fait, il faut les prendre en compte, les évangiles contiennent beaucoup de miracles, il faut les prendre au sérieux, et il y en a dans la vie des saints, il y en a dans la vie de l'Église, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous nous fassiez une précision sur ce qu'on entend par miracle, parce que je pense que, enfin souvent c'est des sujets qui passionnent les auditeurs. Par exemple, la dernière émission peut-être qui a autant passionné, c'était une émission sur le spiritisme, preuve que tout ce monde du surnaturel interroge. Est-ce que tous les miracles viennent de Dieu ? Est-ce que il n'y a pas je ne sais pas justement si on appelle ça des miracles, des choses inexpliquées qui peuvent arriver. On peut avoir recours, par exemple, je ne sais pas, à un guérisseur, et puis ça ne vient pas forcément de Dieu. Distinction vous feriez ?
Non, alors le miracle est une notion théologique, disons même proprement chrétienne, qui est un miracle, c'est un signe, c'est-à-dire une action divine. Donc on la réfère toujours à Dieu d'une façon ou d'une autre. Qui est un signe du salut, c'est-à-dire d'un signe que Dieu sauve les hommes. C'est un signe de l'action salvifique, salutaire de Dieu dans ce monde. Alors, il y a plusieurs signes, mais il y en a un qui est le miracle. Alors le miracle, c'est un prodige, c'est quelque chose de prodigieux, d'étonnant, miraculum veut dire ça en latin, d'extraordinaire, de merveilleux. Il y a un merveilleux chrétien, hein, dont le miracle, mais qui obéit à certains principes. Et pour ça qu'il y a des critères d'authentification, il faut qu'ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a des contrefaçons du miracle, ou des choses qui apparaissent miracles et qui ne le sont pas. Par exemple, des actions étonnantes dont on ne sait pas d'où elles viennent, et dont on dit bah, ça vient peut-être de celui qui est en haut là. Du très haut de Dieu, bah, il faut voir. Faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Il faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on peut dire. Donc c'est pour ça qu'on a inventé dans l'Église et depuis quand même assez longtemps, même si je vous le disais tout à l'heure, ça c'est de plus en plus rigoureux, on a inventé des critères pour discerner ce qui est miracle de ce qui ne l'est pas. Donc dans les prodiges, dans les choses prodigieuses, il y a des miracles, il y en a qui le sont pas.
Voilà, en tout cas, il y a un chapitre dans ces actes du colloque, les miracles du démon, illusion ou permission de Dieu, et donc il est fait de différents ordres de miracles, prodiges, il y aurait une distinction en fait entre différents ordres de miracles.
Tout à fait, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types de miracles, il y a les contrefaçons que j'appelle de miracles, dont celui, vous avez tout à fait raison de le souligner, je ne l'ai pas dit, je le reprends maintenant, du démon par exemple. Le démon peut contrefaire l'action de Dieu.
C'est-à-dire, vous pouvez donner un exemple du coup justement, quand on a recours à un guérisseur ou...
Oui, c'est ça, qui invoque par exemple une puissance satanique à laquelle la personne ne comprend rien, parce qu'il le dit par exemple dans un vocabulaire ou dans un jargon qu'il ne saisit pas. Et en fait, on invoque des puissances occultes, hein, qui sont démoniaques, et le démon, utilisant les énergies humaines existantes dans la personne, bah, rééquilibre pour un certain temps la personne, lui donne une énergie nouvelle de vie, et on prend ça pour des miracles. Alors c'est pour ça que le critère de la durée dans le temps est un des critères de reconnaissance et d'authentification du vrai miracle.
Voilà, on fera d'autres émissions sur ce sujet parce qu'avec la déchristianisation, on lit ou on entend parfois que de fait, il y a de plus en plus de guérisseurs à nouveau, ou en tout cas, les gens ont recours à ce type de...
Il y a des vrais guérisseurs et de faux guérisseurs.
Mais alors là, du coup, on est obligé de faire une précision. Qu'est-ce que vous entendez par des vrais guérisseurs? C'est-à-dire, vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a aussi Dieu, en fait, donne des charismes, et parfois, certains auraient un don qui serait.
Voilà, il y a un don naturel, il y a des gens qui savent guérir certains types de maladies, un zona, parce que de façon naturelle, ils ont un don que je qualifierais de naturel, plus développé que d'autres, pour guérir une inflammation, un zona, des choses de ce genre-là. Mais ils ne guériront pas un miracle, ils ne guériront pas un cancer. D'ailleurs, ils vous le disent eux-mêmes quand ils sont. Ils disent ça, je ne sais pas le faire. Et puis, il y a le miracle, le don de miracle, qui n'est plus naturel, mais qui est surnaturel, qui est de l'ordre du charisme, qui est donné à une personne, par Dieu, pour le bien de la communauté, alors dans la communauté, telle ou telle personne, à un certain moment. Ça peut être un don transitoire ou un don permanent. Le charisme des miracles, hein, c'est, Saint Paul en parle, hein, c'est dans l'Écriture.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple?
Par exemple, il y a... prenez un saint, par exemple. D'ailleurs, c'est un des critères d'authentification. Hein, un des critères d'authentification de la sainteté de quelqu'un, c'est le miracle, au moins un. Au moins un, même si le pape peut passer outre et ne pas...
Miracle post-mortem.
Post-mortem. Ou quelquefois, dans les temps anciens, avant la mort. Hein. C'est le critère d'authentification de la sainteté de quelqu'un, c'était un miracle post-mortem.
Alors là, donc, miracle post-mortem, il faut juste expliquer, c'est que quelqu'un prie Dieu par l'intercession d'un saint et reçoit...
Par l'intercession, ou prie directement un saint,
une guérison.
Pour obtenir une guérison. Et quand il l'obtient, qu'on peut authentifier qu'elle a vraiment demandé à ce saint tel miracle, on en fera une enquête, et ensuite on pourra conclure au caractère surnaturel, je dis bien surnaturel, et pas naturel, du prodige, et on le rapportera à Dieu comme à sa cause première. Moyennant, il y a évidemment l'intervention du saint qui a été invoqué.
Alors, vient tout de suite une autre question. Je vous oublie pas, docteur Alessandro Francesi, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. C'est à propos des miracles qui sont rapportés dans l'Écriture. Alors, on va peut-être pas tous les sérier, mais par exemple, il y en a un qui est un tout petit peu connu du grand public, qui ne concerne pas Jésus, c'est la fameuse sortie d'Égypte quand le peuple hébreu traverse la mer Rouge à pied sec. Et donc, il est dit dans l'Écriture que Dieu, entre guillemets, ouvre un couloir au milieu de la mer. Ça, par exemple, est-ce que on doit croire à ce miracle, ou est-ce que, en fait, c'est une vue de l'esprit et il faut en avoir une autre interprétation?
Ah non, c'est pas une vue de l'esprit, mais ce qu'il y a, c'est que vous savez que les récits de cet événement dont vous parlez, hein, pour le peuple juif, donc après la sortie d'Égypte, les récits sont des récits qui nous raconte un événement dans certaines catégories littéraires, selon certaines catégories littéraires. Donc, je dirais tout simplement, il ne faut pas prendre au pied de la lettre, purement et simplement, ce qui nous est raconté. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Il y a eu un événement prodigieux, de caractère miraculeux, dont Dieu est l'auteur premier, ça je le crois tout à fait, qui bénéfique pour le peuple juif. Et maintenant, où est-ce que ça a eu lieu, exactement comment ça a eu lieu, on peut discuter. Les exégètes, vous savez...
C'est ce que j'allais dire, l'exégèse historico-critique dont vous parlez n'a pas invalidé, entre guillemets, ce miracle de l'Écriture.
Certains radicaux, hein, vous avez plusieurs... Quand on dit l'exégèse, il faut dire les exégètes. Il y a les exégèses radicales. L'exégèse radicale, tout ça, c'est une projection croyante, religieuse, estimable, d'ailleurs, et d'ailleurs signifiante, hein, de la communauté croyante juive. Alors ça, c'est l'exégèse radicale. Et puis il y a ceux qui disent la signification, elle est fondée sur du réel, elle est fondée sur des faits réels. Il n'y a pas de signification suspendue en l'air, des choses signifiantes qui seraient suspendues en l'air. Et ils disent, bon, il dit cela, c'est à mon avis celle que je suivrai plutôt, me semble-t-il.
Et c'est celle que suit l'Église ou, enfin, que,
oui, comment, alors comment, vous savez, l'Église elle est prudente, elle ne va pas vous dire qu'il faut croire qu'à un moment donné, le peuple juif est sorti d'Égypte par une action miraculeuse telle que nous raconte le récit biblique. Elle gardera bien de dire des choses comme ça. Mais elle dira, oui, le peuple juif a été sauvé par Dieu par un certain nombre d'actions prodigieuses, dont celle dont nous parlons. Maintenant, quant à savoir si ça s'est passé exactement comme ça et qu'il faut le croire exactement de la manière dont ça nous est raconté dans le récit biblique, ça, l'Église ne le dit pas. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Parce que l'Église n'est pas tenue de nous le dire. Hein. Mais elle nous dit par là que Dieu agit à certains moments de l'histoire pour son peuple.
Voilà, on aurait pu parler évidemment de d'autres événements, ne serait-ce que pour l'Ancien Testament, quand Dieu parle à travers le buisson ardent, par exemple à Moïse, ou quand il est substitué à Isaac un bouc, c'est ça, ou un bélier pour le sacrifice, et puis évidemment toutes les guérisons et miracles rapportés par Jésus. Alors j'aurais une question pour vous, docteur Alessandro Francesi, je veux pas vous mettre mal à l'aise, parce que j'imagine que c'est d'abord le médecin qui parle, mais vous connaissiez Lourdes avant de venir, et vous connaissiez l'existence... justement, de ces miracles inexpliqués, ou est-ce que ça a été pour vous une découverte? Peut-être est-ce que ça peut être le croyant ou le chrétien qui parle et qui répond à la place du médecin. Mais vous avez le droit d'avoir un devoir de réserve. Hein.
Moi, je suis arrivé à Lourdes la première fois à l'âge de 17 ans. J'étais au lycée, invité par l'hospitalité de ma ville de Naples, de mon diocèse de Naples en Italie, à participer au train blanc, au train des malades. Et pour moi, c'était un choc tout à fait positif, parce que j'ai découvert en 1973 la planète handicap et la planète maladie, que j'ignorais. Et donc, à partir d'alors, j'ai attrapé une maladie infectieuse et incurable qui s'appelle la lourdite. Ça, c'est une maladie attrapée par des millions de personnes sur la planète depuis un siècle et demi, et donc je commence à venir à Lourdes régulièrement tous les ans depuis alors. Et c'est là où j'ai décidé l'année suivante, l'année du bac, de m'inscrire à médecine. Je voulais être médecin pour être utile aux autres, aux malades. C'est à Lourdes où j'ai décidé d'être pédiatre, aux piscines de Lourdes, en 78, lorsque j'ai vécu une expérience très dure que le père Margelidon appellerait dans la catégorie de la théodicée, parce que j'ai vécu une expérience dure à la piscine enfant, et je voyais des petits enfants monstres et monstrueux, et handicapés, et malades, et aveugles, passer à fouer à mes yeux toute la journée, donc j'ai commencé à pleurer, et à me demander si Dieu existe, comment il pouvait tolérer le mal, et permettre le mal. Et donc c'est une question classique, je comprends, aujourd'hui, dans la maturité de ma vie, qui a toujours passionné la théologie et la philosophie, c'est-à-dire la question de la douleur innocente et de la douleur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très dur, et là, j'ai décidé ce soir même d'être pédiatre. Je voulais être pédiatre pour soigner les enfants. C'est-à-dire, je connais plutôt bien Lourdes, et je ne suis pas étonné du tout de la discussion. Donc, si vous me demandez si je vois un conflit entre mon être médecin et mon être croyant, après avoir dit que je suis un grand pécheur, oui, mais je vois aucun conflit. Je suis tout à fait fils de l'Église. Je crois que Jésus le Christ est le sauveur de ma vie, donc c'est mon sauveur et Seigneur. Et en même temps, je trouve que ça n'est aucun conflit. Quel est le nom, quel est un des noms que Jésus a donné à soi-même? Vérité. Et quel est le but de la recherche scientifique, sinon la recherche de la vérité? Donc, je pense qu'il n'y a aucun conflit. Et je pense que, comme le père Margelidon venait de rappeler aux écouteurs, je pense que la foi, notre foi chrétienne, c'est la foi en Jésus le Christ, pas la foi dans les miracles et dans les signes. Et donc je pense que la prudence de laquelle vous demandiez à lui, c'est une prudence pas vraiment étudiée, mais qui arrive selon les allures de l'histoire, de la culture, des siècles et tout ça. Mais c'est parce que le but et le centre de tout ça, c'est Jésus le Christ. Et d'ailleurs, le Christ, il me semble, parfois, dans les lectures de l'Évangile, plutôt ennuyé par l'insistance sur les signes. C'est très, très fameux, c'est connu, Matthieu 12, quelqu'un des scribes et des pharisiens qui cherchent, en tout cas, toujours de mettre en difficulté Jésus, prit la parole et lui dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et Jésus était plutôt ennuyé, donc il répond plutôt mal avec le signe de Jonas. Et en réalité, pour Jésus, il explique, j'utilise dans mes conférences en public depuis quelques années pour expliquer qu'est-ce que c'est un signe pour moi, quels sont les signes pour moi. J'utilise tout simplement le récit évangélique de la guérison du paralysé né à Capharnaüm. Et là, Jésus décrypte comme font les traducteurs dans la langue des signes auxquels nous sommes habitués. Malheureusement, pas à la radio, mais sans doute à la télévision, oui. Mmh. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui décrypte mon discours normal en langue des signes, et il y a des personnes non-entendants ou malentendants qui sont entraînées à reconnaître ces mêmes signes. Donc, entre les deux, le traducteur et le malentendant, il se comprend. Ces signes évoquent des concepts. Et bien, Jésus fait la même chose. Et il doit être tellement important ce passage qu'il est reporté dans les trois synoptiques. C'est-à-dire, il explique très clairement à Matthieu, Luc et Marc que Jésus dit, à la preuve de la question de s'il avait remis les péchés, et les scribes et les pharisiens, encore une fois, sont là à dire, mais comment tu te fais l'égal de Dieu? Il a dit, eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, et il parle de soi-même, a le pouvoir sous la terre, c'est-à-dire ici, aujourd'hui, hic et nunc, de pardonner les péchés, eh bien alors, j'ai dit, je guéris cet homme. Et je dis à cet ami, ami, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi, récupère ta vie. Donc ça, c'est, si vous me demandez, c'est ça, c'est une contradiction et un conflit avec mon être médecin, je dis pas du tout. C'est plutôt la plénitude de la vérité qui arrive grâce à reconnaître que Dieu est Père et sa miséricorde est donnée pour tous les hommes. C'est-à-dire, lorsqu'on dit le royaume de Dieu est parmi nous, le royaume de Dieu est là, c'est exactement ça.
Alors,
donc je pense que j'ai bien fait l'Église à être prudent, parce que plutôt que de faire la vente des miracles, ou le mécanisme de la vente des miracles, l'Église, voilà, cherche la communauté croyante, et c'est l'évêque qui le fait pour la communauté croyante, s'il y a derrière effectivement un signe.
Eh bien, merci de cette précision. On va faire une deuxième pause musicale, et puis après, on va vous retrouver tout de suite après, peut-être vous davantage, Père Philippe Margelidon, pour aider à ce que ça atterrisse dans la vie, en fait, de nos auditeurs, qui peut-être prient eux-mêmes pour être guéris et les accompagner dans cette prière. Cette émission Vivante Église ce matin, donc peut-on croire au miracle? Avec, je vous rappelle, le docteur Alexandro De Francesi, président du bureau des constatations médicales de Lourdes, et le père Philippe-Marie Margelidon, dominicain, professeur de théologie dogmatique à l'Institut catholique de Toulouse. Alors dans cette dernière partie d'émission, je me tourne peut-être surtout vers vous, père Philippe Margelidon. Je voulais qu'on essaye peut-être d'accompagner les gens qui nous écoutent et qui... ont prié ou qui prieraient ou qui voudraient prier pour eux ou pour des proches, par exemple, qui sont gravement malades. Je sais pas, déjà, qu'est-ce que vous diriez de ce réflexe? Parce que on pourrait dire, alors j'espère que je ne vais pas être comment dire maladroit en disant ça, mais que le régime normal de Dieu, ce n'est pas de faire des miracles.
Tout à fait.
Voilà, la plupart du temps, Dieu n'exauce pas notre prière d'être guéri, même de maladies graves, en fait. C'est...
Oui, alors je préciserai la chose, c'est que le mode normal d'obtenir une guérison, c'est d'aller voir un médecin pour être guéri. Le Seigneur, cause première, passe des causes secondes. Les causes secondes, c'est les médecins qui font leur métier, qui apprennent à guérir les autres. Bon. Mais quand pour une maladie, la médecine, enfin le tout le corps médical vous dit que on voit pas comment on pourrait obtenir une guérison, on se tourne vers le Seigneur, la cause première, par-delà les causes secondes, que sont les médecins, pour lui demander de faire ce que les causes secondes n'arrivent pas à faire, ce que les médecins n'arrivent pas à faire, une guérison. Donc les gens qui me disent « Mon père, est-ce que j'ai tort de demander pour ma belle-mère, pour ma femme, pour mon enfant, qui est une maladie très très grave, de le guérir, est-ce que j'ai tort ?» Je dis « Mais bien sûr que non. On peut demander au Seigneur des guérisons. Moi, si vous le faites avec un cœur croyant, un cœur abandonné dans la foi au Seigneur Tout-Puissant, mais pourquoi il ne vous exaucerait pas ? Ça ne veut pas dire qu'il va vous exaucer, mais pourquoi vous ne lui demanderiez pas ? Donc, les gens qui vont à Lourdes pour demander une guérison, moi j'en ai accompagné plusieurs, pour des enfants, et ça n'a pas toujours marché, si je puis me permettre l'expression, je ne le regrette pas de l'avoir fait, et d'ailleurs ces personnes qui l'ont demandé à Dieu ne se sont jamais révoltées contre Dieu parce qu'elles n'avaient pas obtenu de guérison, elles l'ont fait sincèrement, en toute bonne foi, il n'y a aucune raison de dire « Oh non, non, il ne faut pas demander de miracle à Dieu, parce que Dieu ne fait pas des choses à coup de miracle. Il ne fait pas toutes choses à coup de miracle, nous sommes d'accord. Mais il y a des choses qu'il ne peut faire que lui seul. Et donc on peut le lui demander de façon confiante et abandonnée. »
Comment, pour ceux qui ne sont pas aussi abandonnés que les personnes que vous décrivez, que vous avez accompagnées, comment répondre ? Alors, vous me direz, vaste question, hein, on refera des émissions sur ce grand mystère, mais vous me disiez, en préparant l'émission, ça dépend du bon vouloir de Dieu. Que dire aux gens qui sont malades, qui prient pour une guérison et qui, eux, ont du mal à ne pas se révolter, que Dieu, en fait, ne fasse pas ce qu'il pourrait faire ?
Oui. Mais d'abord, on ne met pas Dieu au pied du mur, quand même. Le Seigneur, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. On ne va pas dire, Seigneur, faites ce que je vous demande. On lui demande humblement de faire quelque chose comme il le veut. Donc, s'il juge bon pour moi et pour la communauté humaine et chrétienne que tel ou tel miracle s'accomplisse, eh bien, on le fait. Si on ne l'obtient pas, eh bien, on s'en remet à Dieu lui-même, à sa providence.
Mais c'est un bon vouloir, c'est un bon vouloir d'un père difficile à comprendre, voilà, peut-être.
Le bon Dieu n'est pas capricieux et le bon Dieu n'est pas arbitraire. Il ne fait pas les choses parce que tout d'un coup, ça lui chante, puis à un autre moment, ça ne lui chante plus. Il le fait dans le mystère de sa providence, selon ce qu'il juge bon de faire ici et maintenant pour telle personne et non pas pour telle autre. Si vous voulez, moi je ne suis pas à la place de Dieu pour lui dire ce qu'il doit faire. Ou même je ne suis pas à la place de Dieu pour vous dire « Ah ben il a fait ça pour telle et telle raison ». Ma réponse, elle peut être que générale. Pourquoi il accorde tel don à telle personne et pas à telle autre ? Tel charisme même, pas forcément de miracle, mais autre, je ne sais pas.
Et vous avouerez qu'il y a dans ce silence parfois de Dieu quelque chose qui peut être difficilement compréhensible ou révoltant.
Oui, mais bien sûr, parce que ça nous met à rude épreuve. Je suis bien d'accord, hein, je l'ai déjà éprouvé pour moi-même, hein, je suis comme tout le monde. Mais je ne vais pas pour autant me révolter contre Dieu pour dire que Dieu, par exemple, est injuste. Il a accordé le miracle à tel enfant, et puis pas à tel autre. Je prends l'exemple des enfants, mais je ne suis pas à la place du Seigneur. Ce que je sais, c'est qu'il le fait toujours en vue d'un bien. Et même quand il ne le fait pas, c'est en vue d'un bien ultime que je ne connais pas, que je ne sais pas. Comme Dieu est bon et miséricordieux, je peux penser que s'il ne fait pas telle chose que je lui demande, pas simplement miracle, toute demande que vous faites n'est pas forcément accomplie telle que vous le voudriez. Hein, le Seigneur fait parfois autre chose que ce que nous avons demandé. Il fait quelque chose, mais d'une autre manière, et il fait aussi autre chose, d'inattendu, pas forcément une guérison d'un enfant, mais par contre, autre chose, un retour à la foi de telle personne. Avec le Seigneur, c'est inattendu, on n'est pas dans le prévisible. Donc je ne vais pas demander à Dieu de me faire quelque chose de calculé. Je vais à Lourdes, donc si je vais à Lourdes avec telle personne, il faut que le Seigneur fasse ça. Vous comprenez ? On ne le met pas au pied du mur. Le maître, c'est lui, c'est pas moi.
Oui, ma question n'était pas forcément sur le fait de le mettre au pied du mur. C'était davantage d'accompagner les auditeurs quand ils sont confrontés au silence douloureux de Dieu.
Bien sûr, moi je le vois. Mais quand une personne me dit « Mais pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé ?» Alors je lui dis « D'abord, moi je ne suis qu'un pauvre homme et un théologien. Je ne suis pas à la place de Dieu pour vous dire pourquoi il ne l'a pas fait. » C'est ça que je voulais dire. Et donc, mais que Dieu vous donnera quelque chose, je ne sais pas quoi.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, c'est que vous l'avez fait, mais je vous y incite. Il y a une prière à laquelle Dieu répond toujours, c'est de manifester sa miséricorde, quelles que soient les situations. C'est peut-être le premier miracle.
Le premier, oui, le qu'il faut rappeler, miracle enfin, au sens large. Voilà. La première grâce, si vous voulez, car toute grâce n'est pas miracle. La première grâce, c'est déjà de prier Dieu. Quand un homme se met à genoux et finit par, j'allais dire, ouvrir ses mains pour demander à Dieu quelque chose, c'est déjà que Dieu a fait quelque chose dans le cœur de cette personne. Même s'il n'exauce pas comme tel la prière, enfin le contenu de la prière de demande. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, ce qu'il n'a pas obtenu, le Seigneur, le plus souvent, nous le rend autrement. Il nous le rend autrement, pas forcément tout de suite, pas forcément même dans l'immédiat. Il le rend autrement. Moi, j'ai rencontré des tas de gens qui, le Seigneur n'a pas fait ce que je lui ai demandé, enfin ce que j'ai voulu lui demander, mais il m'a donné autre chose, auquel je ne m'attendais pas. Alors bon, je crois quand même que c'est pas simplement une consolation. C'est que, encore une fois, Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Il est maître de ses œuvres, de ce qu'il veut faire et de ce qu'il ne veut pas faire. Non pas par caprice, encore une fois, et par arbitraire, mais c'est parce que c'est lui qui a un but et qu'en fonction de cette fin, il est le juge de ce qu'il convient de faire, moyennant notre demande. Parce que Dieu veut passer par nous, donc il veut passer par notre demande. Donc nous avons raison, je reviens à la première question de tout à l'heure, nous avons raison de demander à Dieu de façon confiante et abandonnée telle ou telle grâce ou bien tel ou tel miracle.
Eh ben, merci beaucoup à tous deux d'être venus nous parler de ce sujet délicat. Je rappelle le titre des actes du colloque qui a eu lieu donc au sanctuaire de Rocamadour, Le miracle et la foi aux éditions Artege. Voilà, paru en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.